Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre d'été, une émission préparée par Fanny Richer, Catherine Donnet, Virginie Le Duo et Marie Vidal, réalisée par Lise Combe, accompagnée ce soir à la technique de Clément Daté. Google est. Si vous tapez juste ça sur le moteur de recherche en question, votre phrase se complète automatiquement sur votre écran. Google est un moteur de recherche ou Google est ton ami. Maintenant, tapez « Google est un », donc vous tombez très vite sur « une femme » ou « un dieu ». Et je vous passe encore la tentative d'une recherche « Google est trop », un sursaut fantasmé, un brin mégalo, qui donne une idée de la position que se donne la firme à l'échelle du monde, celle d'une entreprise qui jouit de plus en plus d'un contrôle sur la vie privée des internautes et qui se donne pour objectif de contrôler la vie tout court. En effet, la restructuration de la firme, qui s'appelle donc Alphabet depuis une semaine, nous rappelle que Google n'est pas qu'un moteur de recherche, une messagerie ou un réseau social. C'est une entreprise de plus de 53 000 salariés qui travaille aussi à la création et au développement de voitures sans chauffeur, de remèdes contre des maladies graves, tout comme Facebook ou Amazon. Une fois qu'on a dit ça, une question se pose. Qui les contrôle, ces entreprises? Qui, quelle instance peut leur imposer des limites professionnelles, éthiques, les contraindre à un meilleur respect de la vie privée de leurs usagers? Et ces questions se posent d'autant plus que Google, qui devait répondre aujourd'hui à des griefs de la Commission européenne pour abus de position dominante, vient une fois de plus de repousser ce délai à la fin du mois d'août. Alors peut-on dégoogliser Internet ou en tout cas limiter, réglementer le pouvoir de Google sur le web? C'est notre sujet du jour. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir trois invités. Andrea Fradin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste pour le site d'information Rue 89, spécialiste des questions numériques. À côté de vous, Benjamin Jean, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes juriste spécialisé en propriété intellectuelle et vous êtes membre de Framasoft, une association qui promeut entre autres le logiciel libre et qui tente de mettre au point des plateformes alternatives à Google, Facebook, Twitter ou Skype. Nous y reviendrons bien sûr au courant de cette émission. Et avec vous, en face de vous, pour discuter, Olivier Babot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de stratégie d'entreprise à l'Université de Bordeaux et vous êtes également membre du conseil scientifique de l'Institut pour la souveraineté numérique. Vous êtes une vingtaine dans ce comité, je crois. C'est une association donc, qui compte une vingtaine de personnes au sein de ce comité, peut-être plus en réalité, c'est ça?
Oui, il y a peut-être une vingtaine de participants très actifs et puis après toute une myriade de participants qui apportent leur savoir et leur intérêt. Oui.
En tout cas, cet institut tente de sensibiliser les citoyens et les entreprises sur la protection de nos données et de proposer des actions juridiques en ce sens. Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'en reparler aussi. Alors, nous avons mis l'accent aussi bien dans le titre que dans l'introduction de cette émission sur Google, car c'est cette filiale qui est aujourd'hui dans le collimateur de la Commission européenne et au centre de l'actualité. Mais nous allons bien sûr aborder ces questions aussi à travers les cas de Twitter, de Facebook, d'Apple, d'Amazon, etc. Alors, Google devait répondre aux griefs de la Commission européenne à la fin du mois de juin, des griefs dans le cadre d'une enquête de cette commission pour abus de position dominante. Le délai d'une réponse impartie à Google a été repoussé une première fois et les dirigeants de la société devaient donc livrer leur argumentaire aujourd'hui. Or, la semaine dernière, un délai leur a été de nouveau accordé. Ils ont maintenant jusqu'au 31 août pour répondre à ces griefs. Alors, qu'est-ce que ce déroulé à rallonge de cette procédure juridique dit du pouvoir de Google, de son image d'intouchable face aux institutions qui lui demandent des comptes? Benjamin Jean.
Alors, c'est une grande question. Le premier élément de réponse, c'est que effectivement, Google est une organisation qui produit des services qui remplissent des besoins, c'est-à-dire qui répondent aux attentes des utilisateurs, des internautes. Et je pense que Google, en cela, a innové sur Internet. La difficulté, c'est que, de par leur position qui devient effectivement de plus en plus dominante, on en est venu à se demander s'il n'y avait pas abus possible de cette position. Et c'était toute la crainte et l'enquête menée par la Commission européenne. Oui,
il ne faut pas confondre deux choses. En fait, il y a la position dominante qui est un fait en fait incontestable et l'abus. Et en fait, c'est l'abus qui est incriminé en l'occurrence. La longueur de la procédure n'est pas très étonnante. Si on se souvient de celle de Microsoft, elle avait duré 13 ans entre 2000 et 2013 et à l'issue de laquelle ils avaient été condamnés à quasiment 600...
2 milliards d'euros.
Il y a eu plusieurs
amendes, effectivement. Alors, au titre d'Internet Explorer, ils avaient eu une amende extrêmement importante. Ça avait quand même duré 13 ans. Ici, finalement, on aura été sur une durée, si je ne me trompe pas, un peu inférieure, en fait.
Au moment, on est à 5 ans, à
voilà,
peu près.
C'est relativement rapide pour une procédure qui est quand même extrêmement complexe.
Justement, Andrea, sur cette question, vous voulez rajouter quelque chose?
Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est un peu l'histoire qui se répète.
Andrea Fradin.
Et à mon sens, Google aimerait bien arriver à ce que Microsoft a réussi à avoir aux États-Unis, parce qu'il faut bien se rappeler que si Microsoft a été condamné à 2 milliards, bon, ce qui n'est pas grand-chose quand on regarde les chiffres d'affaires, là, Google, je crois, en gros, une amende équivalente à maximum 10% de son chiffre d'affaires, ce qui fait en gros 6 milliards. Sur 60 milliards de chiffre d'affaires, ça fait beaucoup pour nous autres, mais pour une entreprise comme Google, c'est pas si énorme. Mais il faut bien voir que Microsoft, par exemple, aux États-Unis, dans les années 2000, s'était fait condamner, puis après avait réussi à trouver un accord avec le département de justice américain, l'équivalent du ministère de la justice. Donc je pense que Google, et d'ailleurs ils ont fait des propositions en ce sens pour le moment refusées, cherche à trouver un accord avec la Commission européenne pour justement préserver son image en Europe déjà très écornée, et ensuite essayer de s'en tirer sans faire trop de vagues.
Mais justement, est-ce que Google peut trouver un accord quand on voit le nombre de plaintes qui ont déjà été déposées à son encontre, que ce soit en France ou dans d'autres pays d'Europe?
En fait, si on regarde l'affaire de la procédure, on va pas le détail de la procédure, mais sans effectivement rentrer trop dans la complexité de ce qui s'est passé. Mais à un moment donné, Joachim Almunia, qui était l'ancien commissaire à la concurrence, avait failli accepter les conditions.
D'ailleurs, je rappelle juste que cet abus de position dominante, ça consiste, pour expliquer un petit peu à nos auditeurs, que Google est accusé de faire
de
sortir
favoriser
des
services,
de favoriser
dans le
ses
moteur
services.
De recherche,
voilà.
Qui
on
est
tape une recherche
son produit
sur phare. Google,
c'est un de ses
voilà.
produits par au milieu de centaines d'autres. Mais
et on tombe sur des services produits par
et
Google.
Et voilà, l'idée
plus
en gros, ce serait qu'ils favorisent ses propres
Google
services.
Google
voilà.
Shopping,
son
je crois. Voilà.
Prix, tout à fait,
voilà. Oui. Au lieu de mettre, par exemple, je ne sais pas, quel autre service, Amazon ou eBay ou je ne sais quoi d'autre, on voit ressortir, quand on fait une recherche, en premier, en exergue, comme par hasard, le service de Google. Et c'est ce que met en cause la commission.
Et d'ailleurs, pour recontextualiser aussi, au regard de la première affaire qui concernait Microsoft, effectivement, Microsoft a été condamné, mais son concurrent Netscape était mort depuis de nombreuses années, au moment où Microsoft a été condamné. Donc c'est là où on voit que le temps a un effet certain et qu'effectivement...
Le temps de la justice n'est pas celui des affaires.
Exactement.
Et c'est probablement ce Olivier sur quoi les grandes sociétés de façon générale jouent, et Google en particulier, ils savent parfaitement qu'ils peuvent faire bouger les lignes de façon considérable le temps que toute la machine judiciaire se mette en marche. Et donc quand arrive la sanction, si elle est importante, parce que bon, si on regarde la sanction de la CNIL, 250 000 euros à l'encontre de Google, qui était le maximum légal, mais enfin bon, 50 000 euros évidemment pour Google c'était pas grand chose, quand arrive la sanction, en fait, ils ont déjà réussi à faire bouger les lignes de fait. Donc, la stratégie, à mon avis, elle est assez assumée. C'est pas propre à Google, c'est propre à la plupart des grosses entreprises.
Mais justement, la question qui se pose là tout de suite, c'est pourquoi Google demeure intouchable là-dessus, alors que bon, Microsoft a quand même réussi à terme, au terme de 10 ans, certes, mais quand même à être condamné. Et jusqu'à quand Google peut gagner comme ça du temps, petit à petit,
alors,
de report en report?
Effectivement, Microsoft, ça a pris extrêmement de temps, beaucoup de temps, alors que l'affaire était, selon les juristes qui ont examiné le cas, beaucoup plus simple. Là, la ligne de défense de Google se tient finalement, ce que dit Eric Schmidt, il l'a encore répété il y a quelques mois, il ne force personne à aller sur le moteur de recherche. La concurrence est un clic, comme il le dit. Et comme vous l'avez très bien rappelé, finalement, il y a une demande. Quand on parle de Google, comme ça, on a l'impression qu'on met le couteau sous la gorge des utilisateurs, des internautes, en les forçant à aller sur Google ou Facebook ou autre chose. Mais c'est pas le cas. Il y a une véritable demande. Et finalement, les gens, tant qu'on leur offre un service qui leur convient, ça, ils y vont. Ils vont pas se poser la question. Et c'est peut-être ça le problème aussi.
Alors, il y a pile une semaine, Google s'est restructuré. Maintenant, le moteur de recherche est devenu une filiale abritée sous la maison mère Alphabet, qui regroupe plein d'autres activités de Google. L'entreprise, donc, se consacre aussi à la recherche. Larry Page, l'un des patrons de la société, a justifié cette nouvelle organisation par un souci, dit-il, d'allègement et de clarté. Il dit donner plus de niveaux de gestion pour pouvoir gérer indépendamment des choses qui ne sont pas liées. Est-ce que cette restructuration aussi, c'est une manière de brouiller les pistes juridiques? Est-ce que c'est une manière d'échapper, une fois de plus, de faire obstacle à des actions juridiques?
pense qu'il y a deux lectures. Une première lecture assez business, qui est donnée par la plupart des observateurs en stratégie, qui est que quand une entreprise croît, naturellement, elle va passer d'une organisation fonctionnelle à une organisation divisionnelle. Parce qu'on est beaucoup trop gros, il va falloir séparer les activités pour qu'elles soient, on pourrait dire, plus indépendantes dans leur fonctionnement. Ça, c'est la première explication, et ça justifie. La deuxième, c'est peut-être une explication, peut-être du point de vue des créateurs, qui est qu'ils ont mis de côté, on pourrait dire, le moteur à la rentabilité de l'entreprise, et puis ils vont pouvoir comme ça s'intéresser et gérer plus directement ce qui les intéresse plus et qui constitue aujourd'hui le cœur du développement et de la recherche de Google. On va peut-être en parler, tout ce qui est biomédecine, notamment robotique, intelligence artificielle.
Benjamin Jean, sur cette question.
Alors oui,
la protection juridique. Qu'impliquerait ou non Alphabet?
Là ce n'est pas tant en termes de protection juridique, ce serait savoir si le droit de la concurrence serait impacté par cette nouvelle organisation. Je ne crois pas simplement parce que dans les faits, effectivement, même si maintenant il y a une holding et différentes entités, rien n'a changé dans le modèle de gouvernance, et puis c'est qu'une maison mère qui a une multitude de filiales, donc elle pourrait tout à fait être condamnée pour le même motif d'abus de position dominante. Je vois aucune difficulté à ça, et pour le reste, effectivement, je pense que c'était peut-être le timing a fait que ça leur permettait aussi de gagner du temps au regard de la Commission européenne. Ça, je ne saurais le dire. Mais oui. Pour moi, c'était pas, en tout cas, c'est pas un argument suffisant pour pouvoir échapper à la Commission européenne. Oui. Même si ça permet éventuellement de donner plus de clarté sur les chiffres des différentes filiales et notamment sur cet abus de position dominante au regard de certains.
Oui, ça peut avoir, beaucoup de gens ont souligné que Olivier ça avait un intérêt boursier. Ça permettait de rassurer, de clairifier, de montrer clairement où et comment la valeur a été produite à l'intérieur de l'entreprise.
Parce que André Fradin, ce que disent les patrons de Google, Larry Page et Sergey Brin, c'est que les investisseurs un peu traditionnels peuvent être effrayés par les grands projets visionnaires de Google qui sont vraiment aujourd'hui au cœur de l'entreprise.
Oui, on parlera de Google Genomics.
Voilà, notamment. Exemple, ils ont un gros labo de recherche qui génère tout un tas de fantasmes, Google X. Et ça peut effrayer, c'est un peu éloigné du cœur de métier, donc Internet, moteur de recherche, pub en ligne. Et ça va dans tout un tas de domaines et ça permet de donner un peu plus de visibilité.
Olivier Babot, sur
oui,
cette question.
Oui, alors, il y a une dernière lecture. Vous savez, il y a un fameux livre qui s'appelle Le dilemme de l'innovateur, d'un auteur qui s'appelle Christensen, qui explique que les grosses entreprises, qui souvent sont nées d'une innovation, ont un grand problème, c'est qu'une fois qu'elles sont devenues grosses, elles n'arrivent plus à innover. D'une certaine façon, les GAFA, Apple, Facebook et Amazon, ces grosses entreprises d'Internet savent qu'elles sont confrontées à ce dilemme, elles sont nées de l'innovation, mais elles savent qu'elles doivent innover en permanence pour survivre. Et pour régler, on pourrait dire, ce dilemme, pour le surmonter, on pourrait dire que chacune essaye en permanence, n'hésite pas, par exemple, à se cannibaliser. C'est ce que fait Apple quand elle a lancé un iPhone dont elle sait qu'elle allait tuer l'iPod. Donc Steve Jobs a été assez clairvoyant de ce point de vue-là. Et peut-être que Google, en faisant ça, aussi essaye de continuer à garder sa capacité innovatrice tout en conservant son activité, l'activité qui intéresse les actionnaires, qui est aujourd'hui le cash d'aujourd'hui, en préparant le cash de demain.
Mais voilà. C'est une véritable obsession chez Google, et d'ailleurs la presse américaine s'en faisait l'écho ces derniers jours après l'annonce de la création d'Alphabet. En fait, Google se réorganise en permanence et veut toujours avoir le coup d'après. Ils veulent pas devenir le Yahoo ou le Microsoft de demain, en fait. Ils veulent pas s'effondrer parce qu'ils ont encore cette image de trublion du secteur, qu'ils sont nés dans un garage, dans l'innovation, dans une espèce de dynamique, effectivement, les lourdeurs d'une organisation peuvent un petit peu enrayer. Et l'obsession de Google, c'est d'être dans nos vies, demain, et toujours, voilà, ce coup d'avance, ne jamais être en retard, quoi.
Alors, juste avant de continuer, Andréa Fradin, vous venez d'introduire, sans le vouloir, cet extrait de documentaire que je voudrais vous faire écouter, très court. C'est d'un documentaire qui s'appelle Google, la machine à penser, un documentaire donc réalisé en 2007 par Gilles Kayat.
Il y a un paradoxe intéressant avec Google. Le service est gratuit, le nom est sympa, c'est plein de jeunes, le décor est branché, il y a des babales en plastique et des tables de billard. Google est synonyme d'éclate, de contre-culture et plus encore. Mais en fait, quand vous lisez les journaux, le Google que vous découvrez n'est pas le Google de votre imagination. Ce Google-là est énorme. Il domine tous les secteurs qu'il a pénétrés. Il est en train d'avaler l'ensemble du monde de la publicité, morceau par morceau. Il a cédé aux Chinois sur la censure. Il ressemble à un énorme prédateur, et en même temps, dans votre esprit, c'est Google.
Archive sélectionnée par Virginie Leduo. L'homme que l'on entendait, c'était Michael Malone, éditorialiste au Wall Street Journal. Donc Google, c'est un paradoxe, dit-il, en termes d'image. Est-ce que cette entreprise est aussi insaisissable au niveau juridique ?
Alors, moi, toujours la même idée, c'est-à-dire que se mettre en position de monopole comme c'est le cas, en tant que tel, ce n'est pas du tout condamnable d'un point de vue droit de la concurrence, j'entends. Ce qui sera sanctionné, c'est s'il y a un abus ou s'il y a une entente avec d'autres sociétés, et donc un effet pervers sur la concurrence, sur le marché. Là, en l'occurrence, si Google se sert de l'une de ses positions dominantes dans un marché pour gagner dans un autre marché, pour lesquels ils auraient un produit a priori moins pertinent, parce que c'est ce qui était reproché à Google Shopping à l'origine. Mm-hmm. C'était pas Shopping, je n'ai plus le nom en tête. Mais,
je crois que c'est Shopping.
C'est Shopping, mais Google ça a évolué Shopping. Au fur et à mesure.
Oui, probablement.
Donc ils avaient un service, ils ont lancé un service qui était moins pertinent que d'autres, mais par leur position dominante en matière de recherche, ils ont, semble-t-il, en tout cas c'est ce qui leur est reproché, réussi à rendre leur service plus attractif et ensuite plus pertinent. Donc c'est vraiment ça qui est sanctionnable, quel que soit le montage juridique.
Vous parlez d'abus, mais est-ce que ces recherches menées par Google, et notamment sur le génome humain, donc Google qui stocke des génomes différents dans un cloud, dans un nuage dématérialisé de données, et pour les mettre à la disposition de chercheurs, pour les tester, est-ce que ça, d'un point de vue éthique, c'est considéré, ça doit être considéré comme un abus ?
Comme un abus, je ne sais pas, mais il est clair que les États ne doivent pas se laisser dépasser par les entreprises de cette envergure sur des questions aussi essentielles que la recherche sur le génome humain. Et c'est un petit peu le problème éventuel, parce que pour le moment, il n'y a pas de problème, mais la question que peuvent susciter les Google, Facebook et tout ça, qui s'engagent dans des secteurs qui n'ont plus rien à voir, comme je disais plus tôt, avec leur cœur de métier, avec Internet. Et c'est d'autant plus préoccupant qu'il y a ce paradoxe dont l'extrait audio faisait référence, et en fait, ce paradoxe qui montre une image très courte de Google. Et on l'a encore vu avec Alphabet, ils ont fait toute une campagne marketing très réussie, très cool. Tous les amateurs de high-tech, de news high-tech étaient ravis. Ils sont même comparés à une entreprise qui existe, virtuelle, fictionnelle, qui n'existe pas, fictive, qui n'existe pas en réalité, qui est dans une série d'HBO, une série américaine. Et ils se comparent et tout le monde a dit « Oh mon Dieu, c'est génial, Google se compare à cette entreprise qui s'appelle Ouli, sauf que Ouli dans la série est horrible ». Et Google en vient à se comparer à une boîte horrible pour le clin d'œil et tout le monde trouve ça cool. Moi, ça me terrifie.
Alors,
si je peux aussi, pardon.
Oui, allez-y, Benjamin Jean.
Juste cet élément, parce que je trouvais votre remarque vraiment intéressante. Quand vous parliez d'éthique, effectivement, pour moi, la question, elle est juridique. On en a déjà parlé quelques minutes, mais elle est aussi sur bien d'autres plans. Et notamment cette question éthique, ce qui est fait, est-ce que ce type de société, les projets sur lesquels ce type de société travaille sont éthiques? C'est une question à part entière sur laquelle il revient à chacun de se positionner. On n'est plus sur la Commission européenne qui va juger au terme de, on regarde le droit de la concurrence, la position d'un acteur. Là, c'est vraiment chacun qui se positionne face à une organisation qui est partout, sur nos PC, sur nos téléphones. Est-ce que son comportement est éthique ou pas ?
Mm-hmm. Olivier Babot,
oui,
sur cette
question. Oui, je crois que la remarque qu'appelle votre question, c'est de souligner que jamais, il n'y a pas d'exemple dans l'histoire de l'humanité que des entités, on pourrait dire privées, et autant de pouvoir. Alors certes, autrefois, il y a eu des banques qui arrivaient à prêter aux empereurs et aux rois, ou à l'Église, ou au pape, et du coup, avaient énormément de pouvoir. Mais on n'a jamais eu d'entreprise qui soit, et donc pas seulement Google, mais les GAFA, qui soit aussi puissante. Mmh. Si vous prenez le chiffre d'affaires cumulé des GAFA, vous avez l'équivalent du PIB du Danemark, soit la 15e puissance mondiale. Mmh. Si vous prenez les réserves financière des GAFA, vous avez 123 milliards de dollars, c'est-à-dire de quoi acheter grosso modo les 50 start-up les plus prometteuses et les plus innovantes. Donc vous avez un pouvoir énorme. Et ça va effectivement bien plus loin, et c'est un petit peu ce que vous soulignez à travers votre remarque sur l'éthique, qui est qu'aujourd'hui, le pouvoir de ces GAFA de façon générale, c'est d'être la porte d'entrée du monde sur vous, sur l'individu, et la porte d'entrée
de
l'individu sur le monde.
Oui, c'est ça.
Voilà.
C'est ça.
Et donc, c'est être capable de contrôler, on pourrait dire, les deux côtés, et de ce contrôle que vous monétisez, vous tirez votre puissance financière, mais aussi votre capacité d'influence.
Mmh. Parce qu'avant, justement, ces questions-là sur la e-santé, sur ces recherches-là, il y a aussi cette question longtemps débattue et encore débattue aujourd'hui du droit à l'oubli que ne respecte toujours pas Google. Il y a encore une plainte déposée aussi par l'UFC Que Choisir en France par rapport à Facebook et à Twitter. Ce droit à l'oubli, fin juillet, la CNIL s'est fait signifier que ce droit à l'oubli ne serait pas respecté. Est-ce qu'il faut mettre au point un meilleur outil de répression ou alors un meilleur outil de surveillance permanent pour faire plier Google ? Andrea Fradin.
Sur ce point, il faut un petit peu nuancer parce qu'en plus le débat est très passionné. Ce qu'a dit Google à la CNIL française, c'est nous n'appliquerons pas votre vision du droit à l'oubli
au monde entier.
Au monde entier, voilà, c'est ça. C'est-à-dire la Cour de justice européenne a dit voilà, le droit à l'oubli c'est ça, vous avez la responsabilité de retirer des contenus suite à des plaintes.
C'est-à-dire que moi, si demain je demande à Google de supprimer du contenu me concernant sur Internet, il peut le faire sur Google France, mais connecte en Allemagne, en Italie, aux États-Unis, en
sur
Amérique latine, on retrouvera
ce
contenu.
Voilà. Mais si vous voulez vous mettre sur google.com ou .de ou point je ne sais quoi, ça apparaîtra. Et Google dit, on ne peut pas se permettre d'appliquer cette vision des droits sur Internet qui est proprement européenne, parce que c'est la porte ouverte à des demandes de régimes moins structurés, moins recommandables, plus dangereux, qui peuvent dire, nous, on n'accepte pas des critiques, de notre roi, comme en Thaïlande, par exemple, donc vous enlevez de tout l'Internet.
Ça, c'est le directeur juridique de Google qui a dit ça, c'est
oui,
ça.
Oui, c'était sur le blog de Google, il prenait l'exemple de la Thaïlande. Et en même temps, ça se pose vraiment, est-ce qu'il y a un droit universel d'Internet ? Est-ce qu'il y a une cour internationale d'Internet ? Non, pour le moment, c'est pas le cas.
Est-ce qu'il devrait y en avoir ?
Je ne pense pas que ce soit souhaitable, tellement Internet est flexible.
Ce n'est pas dans l'esprit d'Internet, qui au contraire est très décentralisé.
Ouais. Cette question du droit à l'oubli est effectivement compliquée. Moi, elle me fait tout de suite penser à 1984 et à la réécriture des journaux, enfin à la réécriture de l'histoire. La question, de Jean Orwell, évidemment. La question, c'est jusqu'où vous devez oublier et quoi ? Donc peut-être que si vous avez fait, une erreur dans votre jeunesse, il y a prescription et donc vous avez le droit de l'oublier. Mais jusqu'à quand peut-on nier un fait historique, un fait qui devient un événement qui, de fait, fait partie de l'histoire et à ce moment-là, Google est obligé de le répercuter. Je trouve que ce débat, en tout cas, le mérite d'attirer l'attention sur ce qui fait un petit peu le paradoxe de ces grandes plateformes d'Internet. En apparence et en réalité aussi, elle réalise une formidable désintermédiation puisque à travers la plateforme, vous avez la demande et l'offre qui va se rencontrer, comme aujourd'hui chez Uber, chez Airbnb, etc. Et donc au-delà des institutions et de tous les intermédiaires. Donc en apparence, il y a, une sorte de quasiment d'hyper-démocratie même qui peut se mettre en place. Mais en réalité, cette plateforme, elle est toujours un filtre. Elle est toujours une sélection de la réalité. Elle opère un filtre, évidemment, le premier filtre, c'est celui de la recherche, qui ne vous donne pas la réalité d'Internet, il n'y a pas de réalité d'Internet, il vous donne un choix dans toutes les réponses qu'il peut y avoir aux questions que vous posez. Hein. Donc peut-être que le côté un petit peu pernicieux de ces grandes plateformes, c'est qu'elles opèrent forcément un choix, mais qui ne dit jamais son nom, et qui n'annonce pas la couleur, et d'ailleurs, personne ne connaît la nature de l'algorithme de Google.
Alors dans ce cas, allez-y, Andrea Fradin.
Non, sur ce point, un autre point pernicieux qui montre la difficulté d'appréhender ces plateformes et de leur imposer une forme de droit au niveau international ou régional, au niveau européen, au niveau national en France. C'est le fait que en essayant de les responsabiliser, comme l'a fait la Cour de justice européenne, on leur donne en même temps le pouvoir qu'on leur reproche. Parce que finalement, sur le droit à l'oubli, on dit « c'est Google qui tranche ». Et sur tout un tas d'autres sujets, comme le retrait de contenu, on demande aux plateformes de se responsabiliser et finalement de mettre un peu la casquette
de policier. Et ce ne serait pas à elles de...
Mais si on fait ça, on leur donne un pouvoir énorme, qui est a priori celui de l'État, tout en leur reprochant qu'elles ont déjà trop de pouvoir. Donc ça montre bien la difficulté et la place qu'elles ont déjà de fait.
Il y a aussi cette responsabilisation de l'utilisateur. La plainte du FC Que Choisir reprochait notamment à Facebook et à Twitter de faire des conditions d'utilisation, des conditions générales d'utilisation, ce qu'on signe souvent avant d'utiliser un réseau social, avec des liens très flous, 100 liens hypertextes dans un même texte. Ça aussi, c'est à l'utilisateur de faire attention, ça tient à l'utilisateur de tout lire. Est-ce qu'on doit... Ou alors, au contraire, est-ce qu'on doit réformer un petit peu ? Est-ce qu'on doit modifier ces textes-là ? Simplifier ? rendre plus accessible justement, plus transparent cet aspect-là des réseaux sociaux.
Alors, plusieurs éléments de réponse. Hein. J'aurais tendance à dire que d'une part, des acteurs comme Facebook, Facebook, Twitter sont assez représentatifs de sociétés qui changent leur CGU toutes les semaines ou tous les mois. Donc, de toute façon, même si on les a lus une fois, le mois plus tard, elles ont changé. Et en se reconnectant, on les a acceptées à nouveau sans le savoir. Ça, c'est ce qui est sur le papier.
Avec des changements parfois invisibles.
Tout à fait. Ça, c'est ce qui est sur le papier. C'est pas nécessairement ce que le juge retiendrait, in fine, parce qu'il y a quand même un droit qui protège le consommateur et qui protège l'internaute. Mais est-ce qu'il faut que la loi impose un certain comportement aux plateformes? Alors peut-être, on pourrait très bien, effectivement, il y a des lois qui concernent tous les acteurs d'Internet qui obligent à ce que les mentions légales soient affichées d'une certaine manière à certains endroits. Pourquoi pas, on pourrait rajouter les aspects aux conditions générales d'utilisation. Mais et là, je vous rejoins entièrement quand vous dites que l'utilisateur lui-même doit se sentir concerné. Je pense que c'est aux internautes, aux personnes qui choisissent telle ou telle plateforme, tel ou tel outil, de choisir peut-être la plateforme ou l'outil qui lui paraît la plus respectueuse de ses besoins, de ses volontés, de ses droits, de ses libertés. Et là, actuellement, les gens ne le font pas.
Andréa Fradin.
En même temps, le vrai souci, et qu'on voit particulièrement depuis les révélations d'Edward Snowden sur la surveillance de masse mise en place par les États-Unis, c'est que les gens qui ne sont pas vraiment intéressés par les sujets numériques s'en fichent de ces questions.
Oui.
Et ça, c'est terrible. À chaque fois qu'on écrit un article sur le sujet, on va toujours avoir « on s'en fiche, j'ai rien à cacher, on le savait déjà ». Et en fait, les gens ne veulent pas changer. J'ai souvenir d'une anecdote très marquante, une ancienne collègue qui avait amené sa mère, une ancienne prof, à une conférence de hackers, donc vraiment la collusion de deux mondes. Et les hackers lui expliquaient l'importance de la vie privée.
Des pirates informatiques.
Oui, voilà, des gens qui bidouillent le code et qui savent comment marchent toutes ces machines.
Pas forcément des pirates.
D'accord.
Non, pas forcément.
Des spécialistes.
Ceux qui savent comment ça marche, disons.
D'accord.
Et donc, qui expliquaient l'importance de la vie privée, l'importance de choisir les bons logiciels, les bons services en ligne, etc. Et à la fin de la conférence, tout le monde attendait un petit peu une espèce d'épiphanie chez cette dame qu'elle n'a pas eue. En fait, elle a dit à la fin, bah non, s'il y a un système alternatif à Microsoft ou à Google, tout aussi pratique, tout aussi confortable, tout aussi gratuit et je ne sais quoi, je n'irai pas. Donc il n'y a pas de demande en fait dans le grand public, c'est peut-être ça le problème.
Olivier Babot.
Oui, là on est au cœur du reproche principal qui est fait aux GAFA en fait, hein, c'est de monétiser nos données, volées à notre insu, prises à notre, captées à notre insu.
Alors qu'elles sont souvent données par les utilisateurs.
Alors qu'effectivement elles sont données en totale indifférence, mais souvent en totale ignorance aussi, parce que non seulement vous donnez, je sais pas, votre nom, votre date de naissance, mais en plus le site va souvent capter, par exemple, votre comportement online en dehors de ce que vous faites sur sa propre, et ça on le sait pas en général. Donc peut-être que si on parle des mesures ou des règles à mettre en place, je ne suis pas le seul à le dire, mais il y aurait quelque chose à mettre en place comme une forme d'opt-in, hein, c'est-à-dire le fait que vous devez, pour accepter qu'on prenne vos données, qu'on suive vos données, faire une acceptation, alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt, à la limite, c'est plutôt l'opt-out, hein, c'est-à-dire vous pouvez essayer,
et
si vous faites beaucoup d'efforts, vous pouvez essayer de refuser le suivi. Ouais.
Le régime que vous évoquez, pardon,
allez-y.
Le régime que vous évoquez, c'est celui de la loi informatique et liberté, mais qui ne concerne que les données à caractère personnel. Et là, en l'occurrence, les données qui ne sont pas nécessairement à caractère personnel, qui sont considérées comme telles, ce qui leur permet de ne pas être dans l'opt-in. Mais effectivement, je vous rejoins tout à fait ce raisonnement.
France Culture, du grain à moudre d'été, Émilie Chaudet.
Peut-on dégoogliser Internet? C'est la question qu'on essaie de se poser, à laquelle on tente de répondre plutôt ce soir avec vous, Andréa Fradin, journaliste à Rue 89, Benjamin Jean de l'association Framasoft, juriste par ailleurs, et vous, Olivier Babot, consultant en stratégie. Je me souviens d'un mot d'Erwan Lenoan, un de vos confrères sûrement que vous connaissez, qui a écrit dans une tribune « La Commission européenne est critiquée sur son mode d'action. La Commission européenne invoque le droit à la concurrence pour sanctionner Google là où elle devrait essayer de le contrôler. Est-ce que c'est votre avis aussi à tous? Est-ce que la Commission européenne, telle qu'elle se conduit maintenant, devrait plutôt se concentrer sur un contrôle plutôt qu'à une éventuelle sanction?
En même temps, c'est ce qu'elle amorce là.
Andréa Fradin.
Elle pousse par ses griefs, elle a poussé Google à faire des propositions, à formuler des...
Mais est-ce qu'il n'est pas trop tard, justement? Est-ce que Google n'a pas pris un peu trop d'avance?
En même temps, la loi, le contrôle, les sanctions, c'est toujours après et toujours trop tard. Donc je pense que sur ça, on n'arrivera jamais à prendre l'avance sur les innovations et les entreprises. Je pense que la Commission européenne, en formulant ses griefs, a quand même mis un gros coup de pression. Les eurodéputés ont fait de même en appelant très symboliquement, puisqu'ils n'ont pas de pouvoir sur ce sujet, au démantèlement harcèlement des services de Google, sans le mentionner explicitement, mais tout le monde savait qu'il s'agissait de Google. Je pense que la pression est là, et d'ailleurs, le fait que Google ait formulé des propositions prouve qu'ils le prennent très, très au sérieux.
Olivier Babot.
On pourrait dire qu'il y a deux visions. Hein. L'une, c'est on pourrait dire légaliste, qui dit qu'il faut peut-être à la limite démembrer Google comme autrefois la Standard Oil de Rockefeller au début du XXe siècle. Hein. Donc, d'ailleurs, beaucoup de gens l'invoquent. Puis d'ailleurs, il y a eu un vote du Parlement européen à ce sujet, que n'a pas repris la Commission. La deuxième vision, et c'est peut-être personnellement celle que je partage plus, c'est de faire confiance à la concurrence, justement, et de dire qu'il n'y a pas non plus d'exemple dans l'histoire d'entreprise qui ait réussi à survivre à leur cycle économique, au cycle économique qui les avait fait battre. Si on regarde Google, ils ont eu des revers, ils ont complètement loupé le tournant des réseaux sociaux, ils ont loupé les applications, et ils ont beau être dominants avec Android, en réalité, de plus en plus de trafic leur échappe. En fait, le moteur de recherche est en train de diminuer en importance. Hein. D'abord, il faut se souvenir, ils ont 90% en France, mais au niveau mondial, ils ont que 60%. Hein. Ils ne sont pas leaders en Russie et en Chine.
Mais qui sont ses principaux concurrents, justement?
Alors, en Chine, par exemple, c'est Baidu, par exemple.
Les locaux.
Hein. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les gens arrivent sur des contenus, par exemple des vidéos, non pas à travers le moteur, mais à travers les réseaux sociaux, par exemple Facebook. Mmh. Hein. Donc, ils ont loupé des trucs, Google, et Google, probablement, est aussi mortel que les autres entreprises.
Mais en même temps, c'est d'apprendre un sur l'échec cuisant de Google+, et d'ailleurs, je crois que là, c'est la fin de la fin.
Donc, le réseau social lancé par Google.
Voilà, qui devait concurrencer Facebook, n'a pas du tout ébranlé Google, mais en quoi que ce soit. Et justement, ce que je disais plus tôt, le fait que les fondateurs aient bien ça en tête, et on voit qu'ils ont la hantise de voir leur boîte s'effondrer et mourir. Et le fait qu'ils investissent comme ça dans la robotique, dans la maison connectée, dans la voiture sans pilote, enfin tout ça, prouve qu'ils essaient justement de survivre et de sans arrêt relancer l'intérêt, l'innovation. C'est vraiment une grande obsession et c'est peut-être la nouveauté par rapport à l'époque à Microsoft.
Benjamin Jean.
Oui, et pareil, si je peux rebondir sur votre remarque. Pour moi, le droit de la concurrence, c'est la régulation, c'est du contrôle. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans cette action de la part de la Commission européenne. Et ce qui me semble important, et ça, tout le monde en parle comme ça, c'est de dépersonnifier. Il y a Google, mais peut-être que demain, ce ne sera plus Google. Ce qui est important, c'est de limiter ce type d'acteur, en tout cas d'organisation qui grossit, qui peut avoir un effet pervers sur le marché et sur nos libertés, sur notre éthique. C'est le sujet qu'on pourra évoquer, mais... C'est n'importe qui pourrait prendre la place de Google demain. Il devrait lui-même être régulé. En tout cas, on devrait encadrer sa nouvelle position.
Olivier Babot.
Oui, je ne veux pas me faire l'avocat du diable. Et le diable, aujourd'hui, évidemment, c'est Google, contrairement à ce qu'il prétend. Don't be evil, mais ça, c'est une sorte d'antiphrase.
C'est la devise de Google. Ne soyez pas
grand
méchant,
Satan numérique.
Pas
voilà. En fait, le combat anti-Google a l'air... revient très souvent une sorte d'invocation anthropopaïque, vous savez, une sorte d'exorcisme. Ouais. Mais en réalité, tuer Google ne serait pas tuer les problèmes de l'Internet et ne serait pas résoudre les problèmes, parce que les problèmes, en gros, il y en a trois. Hein. Les grands enjeux de ce siècle, c'est quoi? C'est les enjeux économiques, parce qu'on a effectivement des transformations, des façons de travailler, très concrètement, un recul, par exemple, de la forme du CDI traditionnel avec les nouvelles formes de collaboration. En termes politiques, c'est évidemment la surveillance généralisée, la société panoptique qui est en train de se mettre en place, qui, entre parenthèses, est plus le fait, au moins autant le fait, des entités publiques et des États que des sociétés privées. Hein, d'ailleurs,
les sociétés privées, main dans la main.
Les sociétés privées qui développent aujourd'hui des formules de cryptage sur les téléphones sont critiquées par les États, notamment la Grande-Bretagne, parce que justement ce cryptage ne leur permet pas de les écouter. Hein, donc aujourd'hui, qui est du côté de la confidentialité de la vie privée, c'est en fait, c'est pas le public, hein, c'est plutôt le privé. Et le troisième grand enjeu, évidemment, c'est un enjeu civilisationnel sur lequel Google est très engagé. C'est l'enjeu de l'intelligence artificielle. Lisez Laurent Alexandre, La mort de la mort, tous ces auteurs futurologues qui décrivent ça de façon assez saisissante. Un camp transhumaniste, hein, c'est-à-dire des gens qui sont partisans de l'application à l'humanité de toutes les avancées scientifiques. Un camp transhumaniste qui est très clairement incarné aujourd'hui par Google.
Benjamin Jean, vous disiez à l'instant qu'on ne réglerait pas le problème en remplaçant Google, et ce à quoi nos autres invités ont répondu qu'ils étaient d'accord. Chez Framasoft, vous travaillez sur l'élaboration, le développement d'un autre moteur de recherche, autre que Google, une alternative à Google. Vous allez nous en dire plus dans un instant. Vous travaillez aussi sur des alternatives de réseaux sociaux tels que Facebook, Skype aussi. Est-ce que ces recherches ont été menées parce qu'il y avait un vide, parce que face à l'impuissance des États, justement. Qu'est-ce qui a motivé ces recherches d'alternatives?
On n'est même pas devant, on n'est pas allé jusqu'au constat de l'impuissance des États, c'était vraiment pas notre préoccupation. On a un réseau qui date des années 2000, un réseau de projets collaboratifs, éducation populaire autour de la culture libre, du logiciel libre. Et à la base, c'est vrai, on était effectivement très centré sur le logiciel et au fur et à mesure, on a évolué. Notre constat, c'était qu'avec avec Internet et avec tous ces nouveaux acteurs qui proposent du service sur Internet, mais plus, on n'est plus dans l'ère du logiciel qu'on irait acheter dans la grande surface. Maintenant, c'est, on se connecte, on appuie trois fois sur Accept, et ça y est, on est connecté à un nouveau service, et la moitié de notre vie est déjà sur ce service-là. Donc, nous, devant ce constat des usages, en fait, qu'Internet génère, on a lancé l'an dernier, en 2014, une campagne qui s'appelle Dégoulisons Internet. Et l'idée de cette campagne, c'était surtout de sensibiliser, de montrer que Internet et le développement d'acteurs, donc de type Google, c'est pour ça qu'on a parlé de Dégoulisons Internet, mais c'est beaucoup plus large, c'est YouTube, c'est Facebook, on les a déjà évoqués. Bon, je rajoute volontiers Microsoft dans GAFAM. Mais donc, c'est tous ces gros acteurs. Cet Internet a de vrais dangers pour l'utilisateur. Donc, vraiment, on ne parle pas tant de la technique, on parle de l'utilisateur du service.
Et c'était un danger qui se situe au niveau du fait de confier des données très personnelles.
Alors, c'est ça, on en a parlé, c'est l'espionnage, c'est la centralisation, c'est-à-dire qu'on va tous retrouver chez un seul, c'est l'éthique. C'est la liberté aussi. Est-ce qu'on peut sortir facilement de tout ça? Et nous, face à ces différents enjeux, ces dangers, on a essayé de proposer des réponses qui sont la liberté, la décentralisation, l'éthique, justement, au profit des utilisateurs. Et donc, devant ce constat des dangers et des réponses que pouvaient apporter certains logiciels libres, on a mis face à chaque service ou projet de Google ou de Facebook utilisé massivement, des alternatives libres open source que chacun peut télécharger, installer chez soi, mais aussi tester
ouvert,
chez nous.
Donc que les gens peuvent donc le code source ouvert, c'est quand les gens peuvent venir prendre des données, en ajouter d'autres pour améliorer
exactement
un service. Voilà.
L'idée en fait du logiciel libre, c'est que lorsqu'on achète le logiciel ou lorsqu'on le télécharge, on a la recette à côté. C'est-à-dire que d'une part, on sait ce qu'il y a dedans. Mais en plus, on peut le reconstruire, voire le modifier si jamais on préfère le faire d'une autre façon. C'est vraiment la base du logiciel libre, sans rentrer dans les détails. Et donc, tous les services qu'on propose s'appuient sur ces logiciels-là. Et en plus, on documente toute l'installation qui permet à chacun de le faire chez soi ou au sein de sa propre organisation. Donc, on n'a pas vocation à remplacer Google. L'idée, c'est pas de dire d'aller chez Framasoft plutôt que d'aller chez Google. On est vraiment un pas.
C'est d'offrir un service, du coup, pour lequel vous vantez une certaine transparence. Et,
montrer une alternative, montrer une autre façon.
Existe.
Oui, c'est ça. Montrer une autre façon que d'utiliser tous ces services centralisés que Google représente très bien, symptomatise très bien, mais encore une fois, ce ne sont pas les seuls. Et permettre ensuite à chacun de le faire chez soi, ou de le faire au sein de son organisation, ou de prôner l'usage auprès de ses proches.
Ces moteurs de recherche sont déjà actifs. Il y a
alors,
déjà des utilisateurs.
C'est ça. On n'a pas que. On a un moteur de recherche. On peut aller sur trouvons.org. On peut. Alors, le mieux, je dirais, c'est d'aller sur le site dégoulisons-internet.org. Où vous avez l'ensemble des services qui sont proposés, avec aussi tous les enjeux derrière ça, et un état, c'est-à-dire les projets qui sont mis en place au fur et à mesure.
Vous dites que le message n'est pas de dire n'allez plus chez Google, mais quand même dégoogleisons internet.org,
oui,
c'est un message assez fort.
Mais aussi parce qu'on est dans la vulgarisation. Soyons lucides, la première difficulté, c'est de faire comprendre à chacun l'enjeu de penser autrement que ce qu'on nous propose. On achète un téléphone, on n'a pas tellement le choix. On a le choix entre les différents téléphones, mais si on regarde l'usage que nous permet de faire le téléphone, les fonctionnalités qui nous sont apportées, on n'a pas vraiment de choix. On a des applications qui sont déjà installées, des fonctionnalités qui sont apportées, et c'est dur d'en sortir.
Olivier Babot, vous vouliez réagir ?
Oui, ce sont des initiatives très intéressantes. Et, il faut se souvenir que Google est une entreprise qui est arrivée tard dans l'histoire d'Internet. Elle est créée en 98.
90,
pourquoi elle a réussi face à, par exemple, un Alta Vista qui était déjà un acteur en place ? Donc, ce n'est pas le first du tout, le premier arrivant sur le marché.
Alors, pourquoi elle a mieux réussi
Il y a plusieurs parce que ces réponses étaient plus pertinentes. En gros, le service était meilleur. On dit aussi qu'il était beaucoup plus simple parce que le fameux rectangle blanc, il y a un côté un peu magique. Vous y mettez votre question, il vous donne une réponse. Alors qu'à l'époque, Yahoo, Alta Vista, ils étaient dans une logique d'annuaire. Ça, c'était totalement illisible. Ouais. Donc, le génie de Google, c'est d'arriver avec juste son rectangle. En tout cas, il y avait une offre qui avait une meilleure qualité. Et probablement, la meilleure réponse qu'on puisse faire à Google, alors si on n'est pas du côté de des partisans du démantèlement, c'est de dire, bah, proposons quelque chose de mieux. Et regardez, un moteur français tel que Quant, par exemple, l'année dernière, 1 milliard de requêtes. Je veux dire, il est parti de rien il y a peu de temps. Donc ça veut dire que quand on a un moteur qui arrive à apporter des réponses plus pertinentes ou qui correspondent plus aux besoins des consommateurs, à ce moment-là, vous avez une demande. Cela étant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un problème culturel dans le fait que les gens... Enfin, il faudrait, idéalement, que le besoin, on pourrait dire, de protection de sa vie privée devienne une part importante de la demande des consommateurs.
La solution n'est donc pas forcément juridique.
Je pense qu'elle n'est pas seulement juridique, c'est totalement illusoire de le penser.
Andrea Fradin.
Il y a tout un tas de facteurs, effectivement, et malheureusement, j'ai envie de croire que la seule innovation permettra de faire germer le futur Google et la future grosse multinationale du net de demain. Mais j'ai du mal à y croire, parce que, comme je disais tout à l'heure, Google met quand même en place tout un ensemble de barrières pour empêcher les futurs pousses d'arriver sur le marché, notamment en les achetant très vite. Les acquisitions de Google, c'est juste monstrueux.
Vous pensez à quelles entreprises, par exemple ?
Les dernières qu'ils ont eues, Nest sur les objets connectés, il y a eu Boston Dynamics dans la robotique, il y en a eu tout un tas. Mais je crois qu'il y a 150 depuis le début de Google, et ils ont commencé très très tôt.
YouTube.
Voilà, il y a eu Motorola aussi. Mm. Ils ont acheté, je crois, 150 startups ou entreprises confirmées depuis le début de leur histoire. C'est énorme. Et encore, c'est que le chiffre connu, parce qu'il y a toutes celles dont les deals ont été tués. C'est absolument énorme. Et donc, ils phagocytent comme ça pour pas justement se laisser concurrencer. Et bien sûr, il y aura toujours la possibilité d'une innovation, comme pour Google, des génies dans leur garage qui font un truc super, qui marche meilleur, plus ergonomique, plus séduisant pour les utilisateurs. Mais là, quand même, il y a un effet de réseau qui fait qu'on est tous soit chez Facebook, soit chez Twitter, soit chez Google. Donc, basculer sur un autre service, ça demande quand même du temps, quoi. Il n'y a pas les copains, il n'y a pas la famille, donc c'est un peu embêtant, quoi. Et de la même façon, comme je disais plus tôt, il y a aussi un problème chez le grand public qui ne s'intéresse pas à ces questions. Ça n'intéresse pas forcément la question de la vie privée, la nécessité de basculer. Sur l'initiative de Framasoft, je la trouve géniale, mais il faudrait la diffuser auprès du grand public, quoi, pour concurrencer effectivement ces géants.
Olivier Babot.
Alors moi, je partage un peu vos doutes, mais vous savez, il y a cette théorie de Huntington sur la fin des civilisations, qui depuis est un peu battue en brèche. Mais penser que Google sera toujours Google, c'est un peu penser à la fin de l'économie ou la fin de l'histoire économique. Et ça, j'ai du mal à y croire. Personnellement. Moi, je suis comme vous, je partage vos doutes, mais ce que je constate tout de même, en revanche, c'est que le coût d'entrée dans un métier, grâce à Internet et grâce au numérique, justement, par cause des effets de réseau et puis des coûts marginaux nuls, etc., et puis du cloud computing, le coût d'entrée est devenu extrêmement faible. Donc, vous n'avez plus besoin de beaucoup de capitaux pour se créer. D'ailleurs, c'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'effectivement, Google rachète des startups qui sont créées la plupart du temps dans des garages, dans des pioles d'étudiants. Ils le savent. Donc, c'est vrai qu'ils ont cette capacité à racheter, mais ça ne veut pas dire que les choses n'émergent pas en dehors. En fait, ça émerge de facto aujourd'hui encore, en dehors d'eux.
Ouais. Et ce que disait Andrea Fradin sur justement cet appétit de Google pour les petites entreprises qu'elle rachète, cette presque autosuffisance, on pourrait dire, est-ce que ça ne peut pas aboutir à terme justement à son autodestruction, si on emploie des mots très radicaux ?
Je crois que c'est ce qu'ils redoutent. Hein. C'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de se restructurer, d'essayer de retrouver cette flexibilité des débuts, des petites organisations qu'ils ne pourront jamais avoir. Ils ne sont plus les trublions du secteur, malgré l'image qu'ils veulent donner. C'est les nouveaux géants, c'est le nouveau monopole, c'est ceux qu'il faut aller détrôner, clairement.
En attendant cette fin programmée de Google, on a parlé beaucoup de la responsabilité des États, de la responsabilité des consommateurs et des différences culturelles aussi que ça peut impliquer d'un pays à l'autre. Comment est-ce qu'on peut synthétiser, comment est-ce qu'on peut homogénéiser tout ça ? Vous disiez tout à l'heure qu'une cour internationale de l'Internet ne serait pas souhaitable, mais alors comment en attendant on peut régulariser, imposer des réglementations à Google rapidement, en guise de conclusion. Andrea Fradin.
C'est extrêmement complexe. J'en discutais récemment avec Bertrand Lachapelle, un ancien du conseil d'administration de l'ICANN, un diplomate qui essaie de réfléchir à ces questions dans un nouveau projet qui s'appelle Internet et juridiction, qui est très intéressant, qui essaie de combler justement ce fossé entre des juridictions en France, aux États-Unis, enfin bref, dans tous les pays, et aussi dans des régions comme l'Europe, par exemple, qui sont lourdes, qui demandent beaucoup d'années et beaucoup d'argent et qui sont pas adaptées au temps d'Internet. Et de l'autre côté, des règlements qui se sont faits sur le tas parce qu'il fallait bien trouver des solutions entre les pays et les plateformes. Par exemple, quand la France demande à Twitter de virer le hashtag un bon juif. Et du coup, ça, c'est opaque, c'est informel, on ne sait pas trop pourquoi, des contenus sont retirés. Donc, on essaie de trouver une solution, mais c'est très marginal.
Eh bien, merci beaucoup à vous trois d'avoir été avec nous ce soir. Andréa Fradin, journaliste, Olivier Babeau, consultant en stratégie, et Benjamin Jean, juriste et membre de Framasoft. Peut-on dégoogliser Internet? C'est la question à laquelle nous avons tenté de répondre ce soir. Demain, on se retrouve avec une toute autre question. Dans quelle guerre la Turquie s'engage-t-elle? Très bonne soirée à tous et à demain.